Le journal Loïc Barrière. Lors de la cérémonie d'annexion de quatre régions d'Ukraine, Vladimir Poutine a une nouvelle fois dénoncé l'attitude des puissances occidentales. Au Koweït, l'opposition a remporté les législatives avec l'élection de 28 députés sur les 50 que compte le Parlement. Détenu sans jugement par Israël, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri observe une grève de la faim depuis 5 jours. Entretien avec Nathalie Godard d'Amnesty International. Elle appelle les autorités françaises à se mobiliser pour sa libération et son droit à rester à Jérusalem. La deuxième édition de la Cité des débats à Saint-Raphaël sur le thème de la liberté. Entretien avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Enfin, nous évoquerons la maladie d'Alzheimer avec Benoît Durand, directeur délégué de l'association France Alzheimer. Le discours de Vladimir Poutine cet après-midi au Kremlin, le président russe a officialisé l'annexion de quatre régions d'Ukraine. Selon lui, les résultats des référendums ne sera pas discuté car les électeurs ont fait leur choix. Un discours dans lequel le président Poutine a critiqué une nouvelle fois les puissances occidentales, dénonçant la dictature du dollar. La Russie a repris sa place et l'Occident continue d'essayer de nous détruire, a-t-il déclaré. Après cette cérémonie, les dirigeants de l'Union européenne ont rejeté l'annexion des quatre régions ukrainiennes. Emprisonné en Israël, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a entamé une grève de la faim le 25 septembre, une grève observée également par 29 autres détenus qui protestent contre leur emprisonnement sans inculpation par Israël. Chargé des actions pour Amnesty International, Nathalie Godard a rencontré la famille de Salah Hamouri à Jérusalem. On l'écoute.
Salah Hamouri donc est en détention administrative depuis plus de 7 mois dans la prison de Hadarim. Depuis 7 mois, il ne sait pas pourquoi il est en prison. Il n'a aucune information, ni charge, ni preuve, ni aucun élément n'a été apporté ni à lui, ni à ses avocats. Il a démarré dimanche dernier avec 29 autres détenus administratifs palestiniens une grève de la faim. Donc ça, c'est vraiment pour nous le signe d'une dégradation forte et c'est un appel de désespoir hein, de ces détenus. Et suite à cette grève de la faim, il a été placé à l'isolement. Donc il est actuellement dans une cellule de 4 mètres carrés avec un minuscule matelas de à peine 10 cm, sans aucune photo, sans livre, totalement isolé. Et donc sans aussi le soutien moral qui est nécessaire dans ces situations de grève de la faim. Donc on est effectivement aujourd'hui très inquiet pour sa situation. Et il n'aura pas d'audience pour savoir si sa détention est renouvelée ou pas avant début décembre.
Qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités françaises, puisque c'est un ressortissant français ?
Alors Salah, effectivement, est un ressortissant français. C'est donc aux autorités françaises de se mobiliser pour non seulement sa libération, parce que sa détention administrative ne peut pas être poursuivie ainsi indéfiniment, et également pour demander clairement à ce que sa résidence à Jérusalem ne soit pas révoquée, puisque aujourd'hui il est sous la menace d'une expulsion de son propre pays, puisqu'il est français mais également palestinien, résident de Jérusalem, et que la justice, pour l'instant, a décidé de lui enlever cette autorisation de résider dans sa ville natale.
Selon vous, pourquoi les autorités israéliennes s'en prennent-elles à Salah Hamouri ?
Alors Salah Hamouri, c'est un avocat palestinien, c'est aussi un défenseur des droits humains, très mobilisé contre la détention administrative en Israël, contre toutes les violations des droits humains qui sont commises à l'encontre des Palestiniens, et globalement contre le système d'apartheid que nous dénonçons également Amnesty International. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un système de répression contre la société civile palestinienne, contre les voix critiques que le gouvernement israélien essaye de faire taire. Et Salah Hamouri est vraiment un symbole aussi de cette répression contre la société civile et de l'utilisation de la détention administrative comme arme de répression et comme un symbole aussi de ce système d'apartheid en Israël.
Nathalie Godard d'Amnesty International. Au Koweït, l'opposition a remporté la majorité des sièges lors des élections organisées hier. Elle a raflé 28 des 50 sièges du Parlement. L'opposition avait boycotté les législatives ces 10 dernières années. Parmi les nouveaux élus, deux femmes qui ont fait leur entrée au Parlement. Un nouvel attentat en Afghanistan, au moins 19 personnes tuées dans une attaque suicide à Kaboul. L'attaque a visé un centre éducatif. Des étudiants se préparaient à un examen lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser. On compte également 27 blessés. La revue politique et parlementaire, partenaire de Radio Orient, organise tout ce week-end la Cité des débats à Saint-Raphaël, une deuxième édition sur le thème de la liberté. Entretien avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
La Cité des débats, c'est le prolongement de l'esprit de la revue politique et parlementaire. La revue politique et parlementaire, comme vous le savez, c'est une très vieille revue qui est née à la fin du 19e siècle. Qui a plus de 120 ans d'existence, qui est une revue républicaine et qui est une revue qui se dote de deux principales missions. La première mission, bien évidemment, éclairer les décideurs sur les grands enjeux du débat public. C'est ce qui avait été à l'origine de la naissance de cette publication par Marcel Fournier, qui était un proche de Valdez-Crousseau à l'époque. Et elle se donne un autre objectif, c'est d'animer le débat public avec des confrontations de points de vue, à la fois des confrontations disciplinaires, des gens venant d'horizons différents en termes, j'allais dire, de savoir académique, en termes d'expérience professionnelle, dans une époque qui tend de plus en plus à se spécialiser, mais aussi de confrontation des opinions dans une époque qui parfois fonctionne, y compris en matière de débat, un peu dans des logiques de silos où finalement ne débattent que les gens qui sont d'accord entre eux. Là, nous assumons le fait que nos interlocuteurs ne puissent ne pas être d'accord, parce que en fait finalement ne pas être d'accord, c'est l'essence même de la démocratie, c'est cette dispute que l'on doit organiser et réguler. Et je trouve que de ce point de vue-là, un événement comme la Cité des débats répond bien aux objectifs de la revue politique et parlementaire.
L'an dernier, ces rencontres avaient pour thème « Faut-il avoir peur de l'avenir ?». Pour cette deuxième édition, les conférenciers planchent sur la liberté. La liberté est-elle en recul aujourd'hui dans les pays démocratiques ?
Oui, alors c'est le choix thématique de cette seconde édition, en effet, est aussi d'une certaine façon inspiré par ce que nous avons traversé ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire, qui quand même a été un moment où finalement beaucoup de sociétés ont suspendu le fonctionnement, j'allais dire, régulier de leur organisation, ont limité parfois un certain nombre de libertés qui sont absolument essentielles, comme la liberté de circulation. Mais la thématique de la liberté est une thématique qui est très large, qui interroge bien évidemment le plan des libertés publiques, le plan de la liberté d'expression, interroge la question de l'économie, la question du social, la question du sociétal. Et on a voulu, avec un nombre important de d'orateurs, essayer de débattre de l'ensemble du spectre de cette question durant plus de 48 heures à Saint-Raphaël avec notre partenaire, notamment à la mairie de Saint-Raphaël, mais également notre partenaire, la société Deloitte.
Alors, vous avez programmé un certain nombre de conférences dont les sujets sont très intéressants. Les États-Unis, par exemple, ont-ils le monopole de la production de la norme ? Parmi les sujets importants de cette Cité des débats, la difficulté à concilier les avancées technologiques et les libertés, c'est un des enjeux de notre vie politique aujourd'hui ?
C'est un enjeu majeur, une table ronde d'ailleurs où interviendront Catherine Bréchignac, la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences et ancienne directrice générale du CNRS, Pierre-Antoine Chardel également, qui est un chercheur particulièrement réputé sur ces questions-là de relations entre sociétés techniques et les problèmes éthiques que cela pose. C'est un sujet majeur parce que on voit très bien qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus techniciennes, où l'usage des technologies fait partie de notre quotidien, facilite aussi notre quotidien, contribue aussi d'une certaine manière à notre confort au quotidien, mais pose néanmoins un certain nombre de questions, des questions en termes notamment de la vie privée, des questions en termes de traçabilité de nos mouvements au quotidien, des questions aussi concernant le débat autour de l'espace public. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un espace public qui est un espace public où le numérique et le digital à travers les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important, où on a certes gagné en liberté d'expression, mais comment peut-on aussi réguler le débat public sans que le débat public en vienne à devenir l'expression parfois de haine ou de confrontation violente. Donc tous ces sujets seront abordés évidemment à l'occasion de cette table ronde et autour d'autres tables rondes d'ailleurs.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Enfin, un coup de projecteur sur la maladie d'Alzheimer. Elle touche 1 200 000 personnes en France. Depuis plus de 30 ans, l'association France Alzheimer lutte contre cette maladie neurodégénérative. On écoute son directeur délégué, Benoît Durand.
Les premiers symptômes, forcément, ce que tout le monde pense, c'est vrai, mais il n'y a pas que. Ça avait des troubles de mémoire immédiate. Mais pas que. Après, il peut y avoir des petits troubles moteurs, des petits troubles du langage. Le premier réflexe, c'est d'avoir son médecin généraliste. Le médecin généraliste, s'il est bien formé, peut avoir des suspicions, peut détecter, peut orienter vers un neurologue. Vous allez voir, sinon il va vous orienter vers un orthophoniste. L'orthophoniste va travailler, là aussi, s'il est bien formé, bien orienté, il va peut-être avoir des petits doutes et puis vous envoyer chez un neurologue. Et une fois que vous arrivez chez le neurologue, là aussi, s'il est bien en phase, il vous fait des tests ou des pré-tests pour savoir si effectivement ça pourrait être une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc ça peut être soit des tests psycho-neurologiques, soit des scanners, soit ponction lombaire, et puis après, en fonction des résultats, le diagnostic tombe.
Il n'existe pas de traitement aujourd'hui face à cette maladie, mais certains soins ou activités peuvent ralentir son aggravation.
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de traitement curatif. Alors il faut savoir qu'il y avait des médicaments qui permettaient de réduire les troubles cognitifs et notamment les troubles du comportement. Parce que là aussi, ça peut être un des symptômes aussi de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Ça peut être des troubles du comportement. Ces médicaments, malheureusement, ont été déremboursés, mais ils sont toujours sur le marché, bien qu'on nous ait dit qu'ils étaient dangereux. Chercher l'erreur, mais ça, c'est pas très grave. Et notamment, fonctionnait plutôt bien pour les maladies à corde lésique, une maladie apparentée à Alzheimer. Donc, sans traitement curatif, le travail quotidien de nos bénévoles, que je salue, et de nos psychologues et autres professionnels de santé, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement non médicamenteux, ou INM, intervention non médicamenteuse, à travers différents ateliers, ça peut être des ateliers en mobilisation cognitive, de l'art-thérapie, de la médiation animale avec de l'équithérapie, du sport adapté, notamment le tennis de table. On voit que ça peut ralentir les troubles cognitifs, améliorer aussi les troubles moteurs. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une vie après le diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moyen quand même de profiter un maximum et d'essayer de mieux comprendre l'évolution de la maladie, d'essayer de la freiner un petit peu et de l'apprivoiser autant que se peut. C'est ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement médicamenteux, et c'est un peu ce qu'on fait tous les jours.
Vous nous dites que la perte de mémoire n'est pas l'unique symptôme ?
C'est pas forcément l'unique symptôme. Effectivement, vous pouvez avoir aussi des troubles de l'orientation. Il y a différents symptômes. Le cerveau est quand même encore l'organe le plus mystérieux. Vous avez différents symptômes. À chaque fois qu'il touche quand même au niveau neurologique.
Alors, chaque année, 225 000 nouveaux cas sont détectés. Cela concerne bien entendu beaucoup plus de monde lorsque l'on compte les proches des malades.
Oui, c'est quand même 1,2 million de personnes malades en France aujourd'hui, une projection 2050 qui va s'apparenter à 2,3 millions, donc c'est quand même assez exponentiel et c'est assez dingue. Et effectivement, sur les 1,2 million de personnes, on dit que ça fait un peu plus de 3 millions de personnes impactées, aidants et proches aidants, familiaux ou pas, qui sont du coup impactés par la pathologie Alzheimer et par l'accompagnement et le suivi de la maladie.
Ses proches, la famille des malades, comment ces personnes sont-elles soutenues et comment peuvent-elles, doivent-elles être soutenues?
Elles doivent être soutenues alors, à plusieurs niveaux. Nous, ce qu'on propose, ça c'est la base de base, c'est ce qu'on appelle nous la formation des aidants, enfin d'un aidant qui va suivre en fait une personne malade d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Spécifiquement formation des aidants sur cette pathologie-là, parce qu'en fait il y a des comportements à avoir, des nouvelles formes de communication qui vont évoluer aussi avec la maladie qu'il faut appréhender. Ça va être aussi toutes les aides qu'on peut avoir. Et bref, c'est mieux comprendre aussi la maladie, qu'est-ce que c'est, comment elle est apparue, comment elle va évoluer ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est la base de base pour permettre à l'aidant, en tout cas, de mieux comprendre et peut-être d'avoir en fait les bons réflexes, les bons comportements face à la personne malade. On dit qu'il n'y a pas une personne malade qui ressemble à une autre personne malade. L'évolution de la maladie peut différer d'une personne à une autre. Et les troubles peuvent être différents d'une personne à une autre, accentués ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, à l'aidant, on lui propose des ateliers spécifiques pour lui, surtout de répit, de détente. Ça, c'est important. Pendant la pandémie, on a eu des appels au secours d'aidants qui n'en pouvaient plus. Plus accès à des aides à domicile, plus accès à des accueils du jour, plus accès à des plateformes de répit et nous appeler au secours. Donc en fait, on fait aussi du soutien psychologique, c'est important, parce que même pour entrer dans la formation des aidants, on fait des entretiens individuels psychologiques. Et ensuite, on peut avoir des groupes de parole, ce qu'on appelle des groupes de pairs aussi. C'est important qu'une fois qu'ils ont suivi cette formation, ils puissent aussi partager avec d'autres personnes qui traversent les mêmes choses pour se soutenir. Et du coup, c'est aussi éviter l'isolement social, qui est aussi un facteur de risque, et même pour la santé de l'aidant, c'est un facteur de risque, et la dépression, c'est un facteur de risque, et voilà, et donc, du coup, bah voilà, c'est tout ce travail-là, que l'aidant ne reste pas seul, qu'il fasse appel à France Alzheimer notamment, mais voilà, qu'il se fasse aider surtout, parce que là, malheureusement, le premier effet de cette maladie, c'est l'isolement.
Est-ce que certains types de comportements peuvent favoriser l'apparition de cette maladie?
Alors, on ne connaît pas encore, scientifiquement parlant, il n'y a rien qui a été prouvé sur les causes réelles du développement d'une maladie d'Alzheimer. Par contre, on connaît les facteurs de risque, mais qui sont à peu près, c'est des facteurs communs à d'autres pathologies. Effectivement, on va plutôt préconiser une hygiène de vie saine, si vous faites un petit peu de sport, d'activité physique, si vous avez une alimentation équilibrée. La dépression, c'est un facteur de risque. L'isolement social, justement, est un facteur de risque. Voilà. Donc, du coup, si vous cumulez en fait un peu tous ces facteurs de risque, vous pouvez être enclin à, en tout cas, être un client entre guillemets à un développement de plaques amyloïdes et donc d'une maladie d'Alzheimer. Et encore une fois, c'est pas une vérité vraie. Mais du coup, voilà, on va plutôt parler de facteurs de risque plutôt que de causes, puisqu'en fait, les causes scientifiquement parlant, en fait, on les connaît pas vraiment, et les facteurs héréditaires est très peu répandu, puisqu'il avoisine les 1% de facteurs d'hérédité.
Benoît Durand, directeur délégué de France Alzheimer, au micro de François-Xavier de Calonne. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Demain à 11h, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient sera l'écrivain Jamil Rahmani pour son livre « Les contes berbères de mon grand-père » aux éditions Orient. Cette édition est terminée. Retrouvez vos journaux et vos émissions sur radioorient.com, Facebook, Instagram et Twitter. Excellente soirée à tous.